vous aussi, vous êtes un peu vintage. Bonjour Alain Baraton.
Oui, je sais pas comment il faut le prendre, mais bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour. Prenez-le bien, prenez-le bien. On va parler des bananiers ce matin. Est-il possible de cultiver un bananier en extérieur au nord de la Loire?
Eh oui, c'est Laurence, une auditrice qui me pose la question et j'avais envie de lui répondre. Alors, si le bananier est en général frileux et craint les gelées, il en existe une variété originaire du Japon qui supporte le froid jusqu'à moins 15 degrés, à condition bien sûr qu'il soit de courte durée. Il perdra alors son feuillage, mais celui-ci réapparaîtra au printemps. Le Musa basjou, c'est son nom, ne vous offrira pas, ne rêvez pas, de bananes, mais il donnera à votre jardin une petite touche exotique.
Le bananier ne serait donc ni un arbre, ni même un arbuste.
C'est exact, le bananier ne produit pas de tronc, mais un stipe, comme les palmiers ou les fougères arborescentes. En général, pour ceux qui s'y intéressent, un stipe est une tige non ramifiée qui peut être plus imposante à son sommet jusqu'à sa base. Exemple, les palmiers. Le bananier est donc une herbe qui atteint le plus souvent 7 mètres de hauteur.
Alors, un autre vrai ou faux, est-il vrai qu'un bananier ne fleurit qu'une fois dans sa vie ?
Après avoir fleuri puis fructifié, il meurt et ce sont les rejets produits par la plante qui donneront un nouveau pied. Sachez enfin que si les bananes sont généralement jaunes et ont le goût logique de banane, il existe une variété appelée Blue Java qui produit une peau et une chair bleue qui a le goût de vanille. Alors inutile de vouloir en planter au nord de la Loire, elle ne pousse que là où il fait chaud, mais vraiment chaud, à Hawaï, aux Philippines et aux îles Fidji.
Vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter avec Brigitte pour commencer. Brigitte, on lui a offert une strobilante aux feuilles pourpres, des feuilles qui perdent leur couleur, le bord des feuilles sèche et elles deviennent marron même. Est-ce une évolution normale de la strobilante? C'est quoi une strobilante?
Alors, les strobilantes, ce sont des plantes originaires des régions tropicales d'Asie et de Madagascar. C'est une jolie fleur qui se distingue, plante qui se distingue par ses feuilles de couleur souvent très vives. Parfois pourpre avec très vernuré. C'est une très jolie plante dite d'intérieur. Mais il est vrai qu'on a tendance souvent à croire que parce qu'une plante vient des pays chauds, elle a besoin de soleil. Grave erreur. Dans ces pays d'origine, elle vit à l'ombre des arbres. Donc elle déteste le soleil direct. Et c'est certainement l'un des deux problèmes dont souffre notre strobilante. Voilà, premier problème. Donc, on le plante à l'ombre ou à la mi-ombre. Deuxième problème, l'humidité. On se doute que toujours dans les grandes forêts tropicales, l'humidité est très importante. Le sèchement ou le séchage des feuilles indique une sécheresse de l'atmosphère. Il faut donc pulvériser la plante pour éviter qu'elle ne présente cet aspect pas terrible.
Delphine, à propos de certaines planches de son potager. Certaines planches du potager sont situées sous un eucalyptus. Ces planches ont été très peu productives. Est-ce que cela peut provenir de la présence de l'eucalyptus? Juste les planches d'un potager?
Oui, c'est là maintenant la technique dite en carré. Au lieu de cultiver directement à même le sol, on va surélever le potager, ce qui est bien pour les personnes qui ont des petits problèmes de dos. Et on fait en fait des châssis, si vous préférez, surélevés qui permettent de cultiver des légumes.
Alors, est-ce que l'eucalyptus peut être un problème quand c'est à proximité?
On ne cultive pas sous un arbre, pas un potager du moins. Les arbres ont tendance, bien entendu, à absorber l'eau au fond, donc en grosse quantité. Le potager étant surélevé un petit peu moins, mais ils font de l'ombre, bien évidemment. Le potager, c'est plein soleil, donc pas en plus. Alors, déjà, pas d'obscurité due à l'eucalyptus. Et puis en plus, l'eucalyptus produit une sorte de toxine sur la feuille qui est pas non plus très belle. L'eucalyptus, il aime pas se mélanger aux autres végétaux. Il est un peu solitaire.
Il est pas sympa.
C'est comme le noyer d'ailleurs. Ce sont des plantes pas très communicatives. Donc on évitera, oui.
Ah, justement, le noyer de Véronique, il a un trou à la base du tronc. Le bois est spongieux, il s'effrite. Le trou s'est agrandi. Il représente un tiers de la base du tronc. C'est un jeune sujet. Je crains qu'il ne tombe cet arbre. Que dois-je faire?
Est-ce qu'il faut vraiment que je vous donne le moral, que je vous casse un
simple
peu le
moral?
Oui, quand on sait les problèmes aujourd'hui liés à la santé des noyers, quand on sait les maladies de l'encre ou de l'anthracnose, savoir qu'on a en plus chez soi un noyer, le tronc est creux, il vit mal, il est en train de pourrir, que faire? Je crois qu'il faut malheureusement envisager de s'en séparer. Eh oui, c'est triste, mais bon, les plantes ne sont pas éternelles non plus.
Serge, à propos d'une masse blanchâtre qui est apparue au pied d'un tronc d'acacia, un acacia d'ornement, hein, sans épines, cette masse semble agglomérer feuilles et brindilles, est-ce une maladie?
Ça s'appelle le crachat de coucou. C'est joli comme crachat de coucou. En fait, c'est pas du tout le coucou, l'oiseau qui vient faire quoi que ce soit. C'est un insecte, la cicadelle, qui vient tout simplement se nourrir de la sève du végétal. Et cette bestiole, elle pond des œufs. Et pour protéger ses œufs de quantité d'éléments comme les prédateurs, elle l'entoure d'une sorte de bave importante, d'où le son nom, bave de coucou. Que faire? Rien, c'est l'automne, c'est trop tard. Laissons donc la nature se reposer.
Catherine habite en Polynésie française et voudrait savoir s'il est possible de faire pousser des graines de lavande et des graines de rose trémière.
Peut-être, mais quel est donc l'intérêt? Profitez donc de la flore locale avant de faire venir des végétaux de...
Comme ça.
Mais non, quoique la rose trémière est originaire d'Asie. Non, je ne connais pas du tout les compétences en Tahiti végétale. Ce que je sais, c'est que on n'introduit pas trop de végétaux n'importe comment. Oui. Soyons prudents.
Allez, un dernier conseil pour le week-end.
La Duchesse laitière était la propriété du regretté Jean-Pierre Coff. Aujourd'hui et demain, c'est une petite fête des plantes, toute petite, mais une visite du jardin qui est organisée. La Duchesse laitière, c'est à Saint-Denis-Lanneray, c'est dans l'Eure-et-Loire, l'occasion de découvrir le lieu où vivait Jean-Pierre Coff et les plantes qu'il a lui-même installées et qu'il chérissait plus que tout.
Votre ami Jean-Pierre Coff, merci Alain Baraton et à demain.
À demain.